Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Pour la dernière émission de cette année tumultueuse, voici un peu de rêve et beaucoup de brillants. Un diamant est éternel. Depuis des générations, c'est ainsi que les professionnels et les amateurs, les investisseurs ou plus communément les adeptes de la bague de fiançailles, quand ils en ont les moyens, célèbrent la plus légendaire et la plus résistante des pierres précieuses. La légende est née en Inde, il y a 6000 ans, avec le Kohinoor, et on ne compte plus les histoires de sortilèges, de pouvoirs magiques ou sacrés, de passions éperdues, de collections insensées, de guerres, de trafics interlopes et de vols spectaculaires qui lui sont attachés. Extrait des profondeurs de la Terre, ce dérivé du carbone parvenu à l'état cristallin après 2 ou 3 milliards d'années est exploité aujourd'hui par de grandes sociétés en Russie, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, au Botswana, mais aussi dans des conditions plus suspectes, dans des petits pays africains. Longtemps, les diamants du sang ont alimenté un commerce dont une réglementation internationale est censée venir à bout. Depuis le XVe siècle, l'Europe, et plus précisément Anvers, en Belgique, était la plaque tournante du commerce du diamant. Aujourd'hui, les Indiens dominent le marché et favorisent Dubaï. Comment et pourquoi un tel bouleversement? Jusqu'où le contrôle des conditions d'extraction est-il possible? Un autre choc menace le secteur, dû celui-là à la technologie. On fabrique désormais du diamant en laboratoire, moins suspect sur le plan éthique et écologique, moins cher aussi. Diamant naturel contre diamant de synthèse, affaire de principe ou de génération dans une économie du luxe mondialisée. C'est ce que nous allons découvrir ce matin grâce à vous, Sandrine Poupon, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'École internationale de marketing du luxe à Paris. Madame Jiquel, vous êtes professeure des universités, chercheure au CNRS et présidente de Diamant Concept, et donc vous fabriquez des diamants en laboratoire. Thierry Vircoulon, merci d'être avec nous. Vous coordonnez l'Observatoire de l'Afrique australe et centrale à l'Institut français des relations internationales. Et par téléphone, depuis Anvers, bonjour monsieur Gottlieb, vous êtes diamantaire joaillier, vice-président de la Bourse du Diamant à Anvers. Madame Poupon, pour bien situer les choses, expliquez-nous quelle est aujourd'hui la place du diamant, j'allais dire du diamant traditionnel, du diamant de mine, je ne dis pas du vrai diamant parce que je ne veux pas froisser Madame Jiquel, donc la place du diamant de mine dans le marché mondial, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, le marché du diamant, c'est à peu près 90 milliards de dollars. La demande provient essentiellement des États-Unis pour 45%, du Japon, qui aime les diamants avec des bijoux en diamant platine, et la Grande-Bretagne. Pour ce qui concerne le marché français, on attache plus d'intérêt aujourd'hui aux diamants de couleur et aux pierres de couleur en général, aux pierres précieuses de couleur et aux pierres fines.
Mais je crois que les diamants en France, sur le marché donc de la joaillerie, représentent encore à peu près 50%
du marché. Tout à fait, tout à fait. C'est un très très gros marché et il y a une demande très forte qui est soutenue par le marché des bagues de fiançailles, du mariage.
Alors, la production annuelle de diamants, ça représente, je crois, à peu près 30 tonnes. Monsieur Gottlieb, bonjour. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Bourse du Diamant à Anvers. Ça se calcule en carats, hein, la production annuelle de diamants.
En effet, nous parlons pas en grammes ou en kilos, nous parlons en carats.
Et le carat, si j'ai bien lu, le terme carat, ça vient de la fève de caroubier qui servait à peser les diamants depuis des temps immémoriaux en Inde.
C'est exact. C'était comme ça. Et aujourd'hui, nous continuons toujours à garder cette tradition. Et on pèse le diamant et on exprime la valeur du diamant avec un poids qui est utilisé en carat.
Alors expliquez-nous ce qu'est la règle du 4C qui détermine en fait le prix d'un diamant.
Alors pour déterminer le prix d'un diamant taillé, c'est pas un diamant brut, il y a en effet les 4C, La première, ce sera la couleur.
Oui.
Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les diamants, ils vont depuis blanc, en fait, sans couleur, et qui passent vers un peu plus de couleur, un peu de jaune, un tout petit peu, un effet minimum, minuscule de jaune, jusque vraiment très jaune. Et ça s'appelle avec des noms qu'on donne. En fait, c'est les lettres de l'alphabet qui commencent avec la lettre D pour la pierre la plus blanche et qui va continuer jusque M pour la pierre jaune. Et puis de là, on va déjà passer à des couleurs qu'on va appeler des couleurs fancy colors en anglais, light fancy, fancy, intense, vivid. Et alors, on peut passer à toutes les autres couleurs, que ce soit bleu, rose, même des fois vert. Ça, c'est un peu le premier C, c'est la couleur. Le deuxième C, c'est la clarité, ce qu'on appelle en anglais clarity. C'est la pureté qu'on peut voir dans le diamant avec un agrandissement de x10. C'est-à-dire qu'on va employer, que ce soit dans un laboratoire ou même dans un bureau ou chez un joaillier, une loupe ou bien un microscope. Tout ce qu'on peut voir avec un agrandissement en x10 va être proportionnellement gradé pour définir l'impureté de la pierre ou la pureté de la pierre dans les différentes catégories qui va depuis tout à fait internally flawless, ce qui veut dire tout à fait pur, jusqu'à une pierre piquée qui est une pierre où on voit déjà vraiment à l'œil nu, on peut voir une imperfection.
Et donc le troisième C, c'est la taille, donc comme tout est en anglais, c'est le cut, c'est ça?
Le cut, c'est ça, c'est la taille du diamant. Si c'est bon, le plus classique, le modèle le plus classique que tout le monde connaît, c'est la taille ronde, la taille brillante, comme on l'appelle. Et puis, on a plein de variations qui sont différentes variations. Donc, on a l'ovale, on a la vette, comme vous appelez en France. On appelle ça plutôt une marquise. Il y a des émeraudes. Donc, taille émeraude, c'est pas une émeraude comme la pierre comme la pierre verte. Il y a des coussins et puis des cœurs. Et puis, on peut partir dans pas mal de différentes tailles qui ont été faites sur mesure ou sur demande ou même brevetées par des gens qui ont développé une taille unique.
Donc les 4 C, donc y compris le quatrième, donc carat, vous nous l'avez expliqué.
Voilà.
Donc ces diamants de mine sont exploités par de très grandes sociétés. Donc la plus importante demeure la De Beers. Hein. C'est, je crois, ce qui contrôle quoi 90% de la production.
Non, je suis prêt. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus que la De Beers. C'est Alrosa qui est aujourd'hui le numéro 1 en Russie, donc qui travaille pour le ministère des mines. Aujourd'hui, ils représentent tout le marché russe, mais même aussi une partie des exploitations en Afrique, et qui sont en termes de valeur au même niveau aujourd'hui que la De Beers.
Alors,
ils exploitent aussi plus de diamants de meilleure qualité.
Donc, c'est à Anvers que les grandes sociétés minières continuent d'envoyer leurs diamants bruts, et ce depuis le 15e siècle.
Je ne sais pas si c'est depuis le 15e siècle que c'est uniquement par les grandes sociétés minières. Peut-être c'était aussi le fait qu'il y avait des gens qui allaient eux-mêmes acheter et récolter la marchandise ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous voyons, nous avons les 4 grandes sociétés minières qui sont représentées à Anvers. Donc c'est vrai qu'on a De Beers et Alrosa, mais on a aussi les mines Dominion de Canada et on a les mines plus petites, nous aussi, mais de l'Australie, qui sont représentés uniquement aussi à Anvers, et je crois même aussi dire uniquement, que ce soit les mines de Argyll qui ont vraiment les pierres de couleur assez uniques, qui sont aussi représentées.
Argyll qui est en cours de fermeture, hein, parce que les filières sont pratiquement épuisées.
C'est ça, mais tout ce qu'ils ont pour l'instant, ils sont, comme je disais, la plus petite mine, mais c'est la quatrième qui est représentée à Anvers.
Alors, ces diamants arrivent quoi, dans des petits sachets en plastique, dans l'immeuble où sont vos bureaux? Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Chambre du Diamant. Et ces diamants sont confiés, en fait, à des experts qui vont les apprécier en fonction de cette fameuse règle des 4 C.
Non, d'abord, ça va arriver en forme brute. Donc, le diamant n'arrive pas en taille taillée déjà, ça arrive en forme brute. Ça arrive à la douane. Nous avons une douane à Anvers qui est spécialisée pour reconnaître et mettre les prix et contrôler tout ce qui rentre en Belgique. Tout arrive ici et c'est distribué depuis que ça passe le contrôle à la douane dans les bureaux qui vont représenter les ventes ou les vendeurs ou les clients qui ont déjà acheté ça peut-être à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Russie ou ailleurs, et ça va être expédié chez eux dans leur bureau pour décider alors ce qu'ils vont faire du diamant brut. Ça peut passer d'abord, il y a des gens qui vont revendre le brut, il y a des gens qui vont directement le tailler. Là, il faut un peu faire une grande distinction entre les diamants de qualité qui ont un prix élevé, qui vont être taillés à Anvers vu l'expertise et la connaissance, et ce n'est plus tellement important le coût du travail pour aller tailler ces diamants. Mmh. Et on doit faire la distinction avec les diamants qui sont en fait diamants assez meilleur marché. Là, on va chercher des clients ou des fabriques qui vont le tailler dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Et alors, je fais allusion à l'Inde.
D'accord. Alors, précisément, Monsieur Gottlieb, merci de rester en ligne avec nous. Thierry Vircoulon, il y a en fait, depuis plusieurs années maintenant, un changement, non pas de la géopolitique du diamant, mais en fait de la géoéconomie du diamant, avec l'Inde qui joue un rôle de plus important, et surtout les Indiens qui sont installés à Anvers même, des Indiens Jain, je crois, en particulier.
Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs évolutions. Comme on le disait, le marché de la taille est passé assez largement dans les mains indiennes. Je crois qu'on dit qu'il y a à peu près 8 ou 9 diamants sur 10 qui sont taillés en Inde. D'une part. D'autre part, les lieux de production ont aussi beaucoup évolué. Il faut savoir que dans la première moitié du XXe siècle, c'était essentiellement l'Afrique australe qui produisait des diamants, et qu'après on a fait des découvertes de nouveaux gisements. Alors ça a été en Sibérie dans les années 50, après en 70 en Australie. On parlait tout à l'heure de la mine d'Argyle qui a été l'une des premières mines découvertes, et puis au Canada dans les années 80. Donc une diversification des zones de production, donc ce qui veut dire de nouveaux acteurs industriels aussi sur le marché, d'où le fait que le monopole de la De Beers ait été cassé progressivement, et puis aussi évidemment de nouveaux centres de négoce. Et on voit maintenant que Dubaï est devenu un centre de négoce en pleine expansion, et en train de concurrencer les centres de négoce plus anciens qui étaient Londres, Anvers, etc.
Dubaï qui bénéficie non seulement de dispositions fiscales particulièrement avantageuses, mais aussi de sa proximité géographique avec l'Inde, évidemment.
Oui, tout à fait. C'est un lieu de négoce international où on retrouve tout le monde. Et en effet, c'est un environnement défiscalisé. Donc, ça attire beaucoup de sociétés. Et puis, il y a aussi une autre évolution importante du marché. C'est que maintenant, on voit apparaître la Chine comme marché de consommation. Et donc, avec évidemment l'évolution socio-économique en Chine, on voit apparaître un nouveau marché, de nouveaux consommateurs, et beaucoup de gens sont intéressés par le marché chinois.
Retournons à Anvers, vous rejoindre, Monsieur Gottlieb. Comment est-ce que la place d'Anvers peut maintenir ses atouts face à une concurrence aussi éclatée au niveau de la taille en particulier, et surtout quand on sait qu'on voit maintenant, semble-t-il, à Anvers, beaucoup d'Indiens, et plus seulement les tailleurs de pierre traditionnels qui évoluent dans votre bâtiment.
Alors voilà, c'est plus simple comme ça, parce que les Indiens, on les voit depuis 30 ans à Anvers, et ils ont, en fait, il y a toute une grande catégorie, comme vous dites, la communauté Jain qui est venue habiter à Anvers, qui représente en fait les fabriques ou les maisons de vente en Inde. Donc, en fait, la communauté d'Anvers a grandi dans une direction qui a pris une ampleur, que c'est vraiment devenu une mixité. On a les gens locaux anversois, mais aussi une grande partie aujourd'hui d'Indiens qui font partie de notre communauté. Dans le fait qu'ils sont à Anvers et qu'ils restent à Anvers, c'est parce qu'ils savent comme l'importance de l'import du brut. Aujourd'hui, je crois quand même qu'on peut dire que vous avez parlé au début de votre du programme de 90 milliards de diamants qui se vendent par an. Si j'ai bien lu les chiffres, on a eu en 2018, parce que 2019, on n'a pas encore les chiffres, on a eu 80 milliards de diamants bruts qui ont été importés par Anvers. Donc, si une taillerie, la petite ou la plus grande du monde, respecter, veut acheter son brut, ils savent bien qu'ils doivent être à la bonne adresse, et c'est à Anvers, pour pouvoir encore s'acquérir le brut le plus important pour pouvoir les envoyer dans leurs industries et dans leurs fabriques. Donc nous voyons vraiment un mouvement où on achète le brut à Anvers, on l'expédie dans des fabriques, que ce soit en Inde ou même d'ailleurs, on voit des gens qui le font au Laos, au Vietnam ou dans des pays où c'est moins cher à fabriquer. Et on revoit quand même une partie de ce taillis revient à Anvers après pour être vendu par l'Europe à tout ce qui est une distribution européenne ou même par ici pour arriver à l'Asie parce qu'il y a encore toujours le nom d'un bureau de vente à Anversois, donc ils préfèrent tailler ça chez eux en Inde, refaire venir ça à Anvers et revendre ça d'ici, que ce soit en Amérique ou en Chine ou ailleurs.
Donc Anvers garde ce label à la fois de qualité, d'authenticité et surtout, j'imagine, pour les pierres de très grande valeur.
Tout à fait. Si vous parlez de pierres de toute grande valeur, en effet, je peux vous dire aujourd'hui que la plus grande taillerie que nous avons à Anvers est la taillerie qui appartient en fait à la maison Tiffany's. Ils ont réalisé l'importance d'avoir sa taillerie à Anvers vu la possibilité d'acheter le diamant brut qu'ils ont besoin. Et en fait, une grande partie des diamants qui sont vendus aux États-Unis et ailleurs dans leurs magasins à Tiffany's sont taillés à Anvers.
Thierry Vircoulon, le marché du diamant a été aussi, au fil des guerres africaines à la fin du siècle dernier, un marché ensanglanté, en tout cas pour certaines filières, avec la difficulté pour la place d'Anvers ou pour d'autres places, parce qu'il y a aussi Tel Aviv et Dubaï, vous en parliez, d'arriver à, non pas à certifier, mais à savoir quelle est l'origine et dans quelles conditions d'extraction ces diamants sont parvenus sur le marché. Les diamants du sang, est-ce que véritablement on arrive à contrôler désormais ces filières-là ?
Alors c'est en effet une expression qui a été inventée à la fin du XXe siècle avec les guerres civiles au Sierra Leone et en Angola. Et il y a eu en effet la mise en place à ce moment-là d'un mécanisme de régulation internationale qui s'appelle le processus de Kimberley, qui était le résultat d'un consensus entre les pays producteurs, les grands acteurs de l'industrie et des ONG qui sont mis d'accord pour créer un système de certification internationale. Donc les diamants sont accompagnés d'un certificat de, quand ils sont exportés, d'un certificat de Kimberley, qui est un certificat d'origine et qui signifie que ces diamants n'ont pas servi à financer des groupes rebelles. Le problème actuel, alors évidemment il y a eu avec ces guerres certaines filières sont devenues très opaques, filières de commercialisation en Afrique centrale notamment, et il y a eu depuis le début du 21e siècle et la mise en place du processus de Kimberley, plusieurs pays qui ont fait l'objet de sanctions par le processus de Kimberley parce qu'ils produisaient des diamants du conflit ou des diamants du sang. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire.
Des sanctions de quelle nature?
Eh bien des embargos justement sur le fait qu'ils n'étaient pas certifiés. Il n'était plus certifié par le processus de Kimberley, donc ça a été le cas de la Côte d'Ivoire quand elle était divisée en deux, parce qu'il y avait une petite production de diamants au nord de la Côte d'Ivoire. Et actuellement, le seul pays qui est sous sanction par le processus de Kimberley, c'est la Centrafrique, depuis que le conflit a éclaté en 2013.
Vous étiez, je crois, en Centrafrique pour l'IFRI il y a quelques semaines. Et nous en parlions d'ailleurs ensemble dans une émission précédente sur l'implantation russe dans cette partie de l'Afrique. Les Russes qui ont aussi mis la main sur quelques mines de diamants d'ailleurs.
Enfin, là-bas, on ne parle pas de mine de diamant parce que c'est une production alluvionnaire, mais en effet, c'est un pays qui produit du diamant depuis longtemps. Il a été célèbre en France avec l'affaire des diamants de Giscard. Le problème, c'est que une grande partie de la production alluvionnaire de diamants de ce pays est en fait exportée par des réseaux de contrebande et échappe très largement au circuit officiel. Et donc actuellement, on estime que la production est environ à 160 000 carats et il n'y en a que 13 à 15 000 carats qui ont été exportés l'année dernière par les circuits officiels. Et en fait, et donc il y a plusieurs acteurs, on suspecte plusieurs acteurs de contrôler des réseaux de contrebande, dont en effet des Russes qui sont arrivés en 2017 en Centrafrique et qui ont créé une société qui a là tout à fait légalement des droits miniers dans certaines zones du pays, mais qui se sont installés dès qu'ils sont arrivés dans une des principales zones de production de diamants en Centrafrique, c'est-à-dire dans l'Est, une ville qui s'appelle Bria et qui est une des principales places de production et de négoce de diamants en Centrafrique, et qui, justement, cette zone-là n'est pas autorisée par le processus de Kimberley à exporter des diamants.
Donc ça veut dire que ce processus de Kimberley continue de fonctionner, ou est-ce qu'il est, il est devenu plus vacillant?
Alors il continue de fonctionner, il se réunit chaque année, etc. La dernière réunion c'était fin novembre à New Delhi, mais il y a un vrai problème dans le processus, c'est sur la définition des diamants du sang. Puisqu'il y a une crise très très sérieuse sur cette définition. En fait, au début du siècle, la définition qui a été adoptée, c'était que les diamants du sang sont des diamants qui servent à financer des mouvements rebelles qui mènent une guerre contre des gouvernements légitimes. Or, lorsque un grand gisement de diamants a été découvert au Zimbabwe, ce siècle, la violence n'est pas venue de mouvements rebelles, mais est venue du gouvernement contre les mineurs artisanaux dans cette zone-là. Et par conséquent, à ce moment-là, les ONG qui font partie du processus de Kimberley ont voulu faire évoluer la définition en disant que il ne s'agit pas simplement d'éviter que ces diamants soient produits par la violence de groupes armés, mais aussi d'éviter la violence des États qui contrôlent la production. Et malheureusement, aucun consensus depuis 2008 ne s'est dégagé au sein du processus de Kimberley sur une évolution et une actualisation en fait de cette définition. Et par conséquent, plusieurs ONG ont quitté le processus de Kimberley. Et chaque année, à l'agenda du processus de Kimberley, on remet cette question de l'actualisation de la définition. Et chaque année, il n'y a pas de consensus. Et donc, on reste sur cette définition qui est que les diamants du sang sont des diamants qui servent à financer des mouvements rebelles, sont extraits par la violence de mouvements rebelles. Par contre, on ne sanctionne pas des diamants qui seraient produits grâce à des méthodes violentes par des gouvernements.
Précisément, M. Gottlieb, à Anvers, comment faites-vous pour déterminer, pour valider l'origine des diamants qui vous parviennent?
Bon, nous suivons le système Kimberley. Et tout d'abord, il n'y a pas un diamant qui a le droit de rentrer en Belgique s'il n'a pas été certifié. Maintenant, si j'entends bien qu'il y a un malentendu d'après certains sur la définition, si c'est un gouvernement ou si c'est un rebelle qui peut décider ou qui va faire la définition ce que c'est un pays ou qui ne reçoit pas de Kimberley, ça c'est une question que l'organisation qui est représentée par tous les pays doit s'arriver, et les NGO aussi qui doivent arriver à une conclusion pour pouvoir mettre dessus finalement le label « c'est un diamant certifié ou pas certifié ». Nous suivons la lettre en disant « les diamants qui sont passés, qui ont eu un contrôle, qu'on a pu voir que ce n'est pas des diamants de sang, comme vous les appelez, parce que ça finance des guerres légitimes ou pas, eux, ils peuvent rentrer en Belgique parce qu'ils ont le certificat Kimberley. Ce n'est pas seulement en Belgique, mais c'est aussi dans tous les centres aujourd'hui, les centres diamantaires mondiaux, que ce soit Dubaï ou Mumbai, que ce soit Tel Aviv ou ailleurs, ou New York, une pierre diamant brute ne peut pas rentrer, ne peut pas passer par une douane sans qu'elle est accompagnée par un document de Kimberley.
Vous nous l'expliquiez il y a quelques instants, la maison Tiffany fait tailler ses acquisitions, ses diamants à Anvers. On sait que c'est le groupe français LVMH qui vient de racheter Tiffany, qui est américain, pour la modique somme de 14,7 milliards de dollars. Et avec le fonds Tiffany, l'un des plus magnifiques diamants du monde. Hamdam Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Courrier International, notre partenaire, et vous vous êtes penchée sur l'histoire fabuleuse de quelques diamants de légende.
Oui, il s'agit d'un diamant jaune rare, découvert en 1877 dans la mine de Kimberley, en Afrique du Sud, et acheté alors par Charles Lewis Tiffany, fondateur de la célèbre marque. Comme le rappelle le New York Times, c'était l'un des plus gros diamants bruts de ce type jamais trouvé, avec 287,42 carats. La pierre fut alors retaillée par un jeune homme de 23 ans, Georges Frédéric Kuntz, qui deviendra un célèbre minéralogiste. Cette pierre fut transformée en un diamant de forme coussin à 82 facettes, soit 24 de plus qu'un diamant standard, à une époque où les diamants aussi larges et brillants sont rares. Pour le New York Times, la marque Tiffany est l'incarnation du luxe à l'américaine et ce diamant, nommé le Tiffany, en est le symbole le plus éclatant. Il a été rendu célèbre par Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, le film de Blake Edwards sorti en 1961, et fait toujours partie de la culture populaire puisque la chanteuse Lady Gaga le portait cette année aux Oscars. Le Tiffany quitte parfois le célèbre magasin de la 5e Avenue pour être exposé dans le monde entier, comme très récemment à Shanghai.
Oui, Hamdam, il y a d'autres diamants célèbres avec une histoire mouvementée.
Oui, le New York Times nous parle par exemple du Princey, un petit diamant sublime, je cite, de la taille d'une très grosse olive, de 34,65 carats et d'une couleur rose éclatante. Il a été vendu en 2013 pour 40 millions de dollars chez Christie's à un membre de la famille royale qatari. Mais fallait-il le vendre, demande le quotidien américain, car il fait l'objet d'une querelle de propriétaires. Les descendants d'un sénateur italien qui avait acquis le diamant dans les années 60 chez Van Cleef et Arpels affirment que le Princey leur appartient et que leur demi-frère l'a conservé à tort après la mort de sa mère. Évidemment, le frère, lui, affirme qu'il en avait le titre de propriété. Pour la célèbre maison Christie's, les membres de la famille n'ont pas de preuve que le diamant leur appartenait et par ailleurs, ils l'ont racheté à un Suisse, un client qui l'avait acheté au demi-frère et qui avait tout à fait le droit de le vendre. Ce fameux Princey est né dans les mines indiennes de Golconda et on en retrouve la première trace dans la collection du Nizam d'Hyderabad, un monarque indien, dans les années 1700. Pour le New York Times, toute cette affaire mêle royauté et riches héritiers aux nuances de la loi italienne, tout en soulevant des questions sur la responsabilité de la maison Christie's.
Il y a des découvertes très récentes de diamants exceptionnels.
Comme par exemple le second plus gros diamant brut du monde jamais trouvé, le Lesidi La Rona, découvert en 2015 au Botswana. De 1111 carats à l'état brut, son nom signifie « la lumière ». Il est acquis par le joaillier britannique Graff pour 57 millions de dollars en 2017. Celui-ci l'a retaillé pour en faire la plus grande émeraude carrée du monde, un bijou qui en jette, selon le site américain Bloomberg, de 302,37 carats. Le prix de ce bijou indéterminé. Le Lesidi La Rona, rebaptisé Graff Lesidi La Rona, est un diamant exceptionnel, difficile à obtenir, puisque les gémologues de Graff n'avaient tout simplement pas un équipement de la taille adaptée. Il a fallu construire un scanner spécial pour analyser la pierre et trouver comment la couper, un processus qui a pris 18 mois. C'est, pour le joaillier Laurence Graff, la forme ultime de l'art de la sculpture, la plus risquée, car on ne peut jamais corriger une erreur. Il faut être prudent et il faut être parfait.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Alix Jiquel, vous avez été très patiente. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et vous présidez une société que vous avez vous-même créée qui s'appelle Diam Concept et qui fabrique du diamant. Expliquez-nous comment vous faites.
Alors en fait, il y a deux méthodes pour fabriquer du diamant sur Terre. Il y a la méthode dite haute pression, haute température, et la méthode dite par CVD plasma.
Donc on parle du diamant de laboratoire, et nous sommes sortis du diamant naturel qui met des centaines et des centaines de millions d'années pour être produit. Donc vous maîtrisez un processus par plasma.
Voilà,
un processus. En quoi ça consiste ?
Alors, en fait, c'est un processus qui n'est pas si différent que le processus qui se passe dans la nature. En fait,
ça va un peu plus vite.
Pas exactement, parce que le diamant dans les profondeurs terrestres pousse relativement vite. Ce qu'il y a, c'est que l'âge des diamants est très élevé, parce qu'il reste des milliards d'années. Mais ils ont été produits en un temps à peu près identique à celui que nous, on met pour faire pousser du diamant. Alors, comment ceci se passe? Nous partons d'un germe. Alors, dans la nature, il va y avoir des germes qui vont se créer également. Et une fois qu'il y a un germe, eh bien, il y a des atomes de carbone qui vont arriver comme une pluie soit à travers un gaz, c'est notre cas, soit à travers du liquide, c'est le cas de la nature et c'est le cas aussi des méthodes de pression de température. Et au moment où ils atteignent le germe, eh bien, que se passe-t-il? Il y a une condensation et cristallisation, donc le diamant, couche par couche, se forme et se développe, et nous on dit qu'il pousse.
Il pousse, et il pousse grâce à des réacteurs.
Alors oui, nous utilisons des gaz, donc on est à peu près 0,3 de la pression atmosphérique, donc basse pression. Dans des gaz, évidemment, on va mettre du carbone, puisqu'il faut du carbone pour faire du diamant, puisque le diamant, ce n'est que du carbone. Et on va mettre une autre espèce qui s'appelle de l'hydrogène. On va envoyer des micro-ondes, un peu comme on a dans notre cuisine, sauf que ce sont des générateurs beaucoup plus performants. Et on va dissocier tout ce monde. Le carbone va tomber, comme je l'ai dit, en pluie sur les germes que l'on aura installés. Et l'hydrogène, qui sera sous forme d'atomes, va juste empêcher qu'il se forme autre chose que du diamant. Donc c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Et ça, c'est une technique qui existe depuis combien de temps?
Alors, cette technique, sans les plasmas, mais a été postulée au même moment où le prix Nobel postulait, Bridgman postulait la possibilité de faire du diamant par haute pression de température. Mmh. Et il a dit, mais aussi, on pourrait le faire dans des conditions de basse pression.
Et ça, c'était quand, à peu près?
Alors ça, c'était dans les années, en fait, 50, 55, 56. Et il se trouve que les Russes et les Américains ont réussi, à peu près au même moment, à montrer que les deux techniques étaient potentiellement possible, sauf que ça allait, pour la méthode de basse pression, c'était extrêmement lent. Donc, les Soviétiques ont travaillé dans leur coin pendant des années et des années. Et au début des années 80, des Japonais, scientifiques des plasmas, donc, ont entendu parler de cette méthode et se sont dit, mais mettons un plasma et donc on va augmenter la capacité pour faire pousser le diamant. Et c'est comme ça que moi j'ai appris qu'avec les méthodes que j'utilisais à l'époque en 87, je pouvais faire du diamant et c'est devenu le sujet de ma vie.
Et donc, vous avez eu le feu vert du CNRS
à l'époque, oui, bien sûr.
Et vous avez créé donc en fait une start-up. Vous êtes start-upeuse du diamant.
Voilà. Et au début, j'ai créé une équipe de recherche, donc CNRS et université à l'université Paris 13. Et depuis 3 ans, c'est une spin-off du CNRS. C'est donc une société qui est hébergée au CNRS. On loue des locaux qui sont petits. On va maintenant bientôt partir d'ailleurs au centre d'innovation de l'air liquide parce qu'on va avoir plus de locaux. Et on est sur un processus extrêmement deep tech, effectivement, très innovant, voilà. Et voilà.
Et donc vous produisez combien? Alors, vous avez eu la gentillesse de nous apporter quelques pierres. On est à la radio, donc on peut pas vous les montrer, mais on va les photographier pour les mettre sur notre site internet. Et bon, je n'y connais rien, donc évidemment, pour moi, tout ça ressemble à du diamant. Néanmoins, vous en produisez combien par an?
Alors, pour l'instant, on n'est pas dans la vraie phase de production, puisqu'on n'a pas encore beaucoup de réacteurs et la levée de fonds nous permettra d'acheter des réacteurs, les faire fabriquer. En fait, on fait fabriquer nos réacteurs en France. Et donc, on pourra avoir 5 réacteurs, commencer vraiment à produire des pierres. Mais nous resterons très, très, très inférieurs à la production qui existe, évidemment, des diamants de mine, puisque nous allons en produire en 2023. Ce qui est prévu, c'est 7500 carats à peu près par an, ce qui est très, très peu par rapport à la somme de ce qu'on peut produire. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les pierres que l'on produit, en fait, nous faisons ce qu'on appelle des spectres Raman, qui prouvent complètement que c'est vraiment du diamant. Alors, je sais qu'il y a un nouveau mot qui est arrivé qui s'appelle diamant synthétique. Alors, je peux le dire. Je savais pas que ça existait avant. Je voudrais pas qu'on tombe dans l'histoire de Galilée, là.
Oui, mais il faut être précis sur le vocabulaire. Précisément, Monsieur Gottlieb, merci d'être resté en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes vous-même diamantaire, vice-président de la Bourse du diamant d'Anvers. Comment réagissez-vous déjà à l'appellation diamant synthétique, qui est une appellation autorisée, hein? Je crois que aux États-Unis, la Federal Trade Commission permet l'utilisation du mot diamant, du mot générique diamant, y compris pour le synthétique.
Oui, mais pas seulement en tant que mot diamant. Il doit être. On doit l'ajouter avec le nom, que ce soit de synthèse, synthétique, lab grown, comme ils appellent ça. On ne peut pas dire juste diamant, parce que il y a même eu un procès il n'y a pas longtemps d'une société qui a changé son stock de diamants, une bijouterie qui a vendu du diamant de synthèse en tant comme du diamant et qui s'est fait en fait punir par le tribunal aux États-Unis il n'y a même pas une semaine ou deux semaines. Parce que c'est pas dire la vérité. Si on vend du diamant naturel et on appelle le diamant de synthèse du diamant, comme sans expliquer que c'est en fait du diamant de synthèse, ça peut donner une mauvaise impression aux gens. Ils peuvent s'imaginer qu'ils achètent un produit, qu'en fait, on leur donne un autre produit.
Mais c'est pas la première fois que le diamant naturel est confronté. J'ose pas dire à des faux diamants, mais il y a eu le zircon. Enfin, il y a eu plusieurs produits qui ont l'apparence du diamant et qui n'en sont pas. Mais là, c'est quand même autre chose puisque ce sont de vrais diamants produits par une méthode scientifique en laboratoire. Donc, c'est pas du faux diamant.
C'est pas du faux diamant, mais ce n'est pas du diamant naturel. C'est en effet du diamant qui a été fait en laboratoire dans des conditions spécifiques et qui vont créer un diamant qui ressemble à un diamant, en effet, tout à fait. Maintenant, on a eu pas mal de crises dans le passé. C'est vrai que chaque fois qu'il y avait un nouveau concurrent ou quelque chose qui ressemblait au diamant, c'était toujours la grande alarme et la grande crise. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à réussir à vendre notre produit aussi luxueux, aussi spécial, même qu'on a de la concurrence? C'est vrai que même le jour où Swarovski est venu avec ses cristaux bon marché, c'était la grande panique et toujours le diamant a pu continuer à manœuvrer et réaliser que finalement nous vendons le produit unique qui a tant de milliers d'années ou de millions d'années et qui a réussi toujours à conquérir les cœurs de tous les gens dans toutes les histoires d'amour ou d'argent, ou comme vous l'avez dit même avant. Donc, peur du diamant synthèse, non, je ne crois pas qu'on doit sentir une menace venant du diamant synthèse. Je crois que c'est un produit alternatif pour une grande population qui ne peut pas se permettre d'un diamant naturel et qui voudrait quand même offrir quelque chose qui brille et qui ressemble à leur épouse ou à leur ami ou à leur conjoint ou à leur conjointe. Et je trouve ça quelque chose de très bien qu'ils ont réussi à trouver un produit qui y ressemble et qui brille joliment et qui a une valeur qu'on doit définir parce que finalement c'est quelque chose qui est fait en laboratoire et alors la valeur, c'est quelque chose d'assez... ça dépend aussi de la quantité de production qu'on peut faire. Il faut parler d'un nombre de qu'on pourra réaliser dans votre laboratoire. Je sais qu'il y a pas mal de laboratoires aujourd'hui déjà dans le monde qui font déjà des diamants de synthèse et qui sont en train d'augmenter aussi leur capacité. Donc, à un moment, ça va devenir un produit qu'on pourra acheter à un prix assez intéressant pour certaines personnes. Et alors, c'est vrai que si on doit comparer, si on doit acheter un diamant de synthèse ou un Swarovski ou même un zircon, je conseille à ces gens-là d'aller pour un diamant de synthèse. Par contre, pour les gens qui sont prêts à toujours voir le rêve dans le diamant et qui veulent acheter quelque chose d'assez unique, je les conseille de quand même réfléchir deux fois avant de se permettre de s'acheter quelque chose qui finalement est fabriqué à quantité juste parce que c'est faisable si on a un réacteur de plus ou un ou deux de plus ou 10 de plus parce que finalement, ça sera juste le coût de l'électricité et des produits de base qu'on emploie pour le faire.
Mais, Alice Jiquel, la différence, c'est évidemment le prix. Quel est l'ordre, quel est le décalage de prix, selon vous, donc, disons, sur un petit diamant, hein, disons, un carat, un ou deux carats, je crois que c'est...
Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même vous dire que je ne suis pas évidemment d'accord avec ce que vous dites et que j'aimerais bien qu'on ne se retrouve pas du temps de Galilée, où la terre était décrétée plate et qu'il fallait qu'ils jurent que c'était vrai. Les diamants que l'on fait, c'est des diamants du diamant, exactement du diamant, la même chose. Le prix est un petit peu moins élevé. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas.
Nettement moins élevé. Oui,
30 à 40% moins élevé aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que demain, on n'en sait rien. Hein, demain, on verra bien ce qui va se passer et que ces diamants sont des diamants. Ils sont certifiés, donc ils ont exactement les mêmes certificats que les diamants de mine, et il est marqué que leur origine, ce sont des diamants de laboratoire. Nous n'avons absolument pas l'intention de piéger le client, puisque nous, on vend nos diamants précisément qui sont non extraits de la nature.
Et donc, pour le moment, ça représente quoi, à peu près 2%?
Oui, c'est ça, à peu près.
Au niveau mondial?
Plutôt aux États-Unis.
Plutôt aux États-Unis. Donc, 2% par rapport aux diamants naturels qui sont en vente sur le marché. Et donc, vous avez donc créé votre propre start-up, si j'ose dire.
Enfin,
votre propre entreprise. Et vous êtes en association en particulier avec un joaillier de la place Vendôme. On ne va pas le nommer parce que nous sommes dans le service public, on ne fait pas de publicité. Néanmoins, vous pensez que le marché, y compris dans des boutiques de joaillerie ayant donc vocation à s'adresser aussi à une clientèle de luxe, vous pensez que ce diamant de laboratoire peut séduire?
Alors, je suis presque extrêmement sûre qu'il séduit, puisque j'ai vu la demande qu'il y a actuellement. J'ai même rencontré des gens qui ne veulent absolument pas acheter des diamants extraits des mines. Alors, peut-être qu'ils ont tort s'ils savaient d'où, quelle était exactement l'origine de la mine et tout ça. Peut-être ont-ils tort, mais en tout cas, il y a des gens qui n'en veulent plus. Alors, il y a des gens qui sont intéressés par le côté high-tech. Hein, c'est vrai, c'est complètement évident, surtout dans une ville comme Paris. Il y a, mais qui sont effectivement, enfin, qui veulent du luxe, des bijoux de luxe. D'autres qui sont intéressés par le fait que ce sont des diamants dont ils sont sûrs de la traçabilité. Et puis, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, quand même.
Sandrine Poupon, je rappelle que vous dirigez une école, l'école internationale de marketing du luxe. Donc, vous avez pour étudiants donc
des millennials,
des millennials, comme on dit en franglish, et qui sont, d'après vous, plus sensibles à ces critères éthiques et peut-être aussi environnementaux concernant le diamant.
Tout à fait. Les millennials aujourd'hui, qui sont pas forcément les clients du luxe actuel, mais qui sont très prescripteurs dans l'univers du luxe, sont à la recherche de maisons de luxe, de marques de luxe engagées et responsables. Et le diamant de synthèse correspond tout à fait à ces nouveaux codes. C'est un produit qui est en rupture, un objet qui est en rupture par rapport au code habituel de la joaillerie, en particulier et du luxe en général. Mais ce qu'on peut dire, et ça me semble important, c'est que ça plaît aux jeunes générations. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est important de faire pour les diamants de synthèse, c'est de faire rêver les clients, pas forcément avec des termes techniques et pas forcément racontant une histoire complexe, mais en ayant ce qu'on appelle un storytelling. Alors, j'emploie encore un mot anglais, je vous prie de m'en excuser, en racontant une histoire, en suscitant de l'émotion pour vendre. Et cette histoire,
oui, et pas seulement en parlant de plasma, parce que c'est vrai que ça franchement.
C'est exactement.
Excusez-moi.
Mais on peut parler de transparence, on peut parler de l'engagement de la marque pour ces pierres de synthèse, et ça peut séduire les jeunes consommateurs aujourd'hui.
David Gottlieb, une dernière question pour vous, et encore une fois, je vous remercie d'avoir été si longuement avec nous par téléphone. Est-ce que, justement, avec de nouvelles générations de consommateurs dont certains peuvent avoir des moyens financiers suffisants pour acheter du diamant naturel, est-ce que vous pensez que ces nouveaux critères de comportement affectent un marché qui, me semble-t-il, globalement, est en légère diminution d'année en année?
Il est en effet en légère diminution, et je suis tout à fait d'accord avec le point de vue que les jeunes aujourd'hui, ils aiment bien la traçabilité et comprendre aussi ce qu'il y a derrière la marque. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les mines, peut-être un peu trop tard, mais ils le font aussi, ils veulent montrer vraiment qu'on puisse suivre la pierre depuis la mine jusqu'à la bague, et ce qui est quelque chose de très bien, parce que les gens, ils ont une vraie traçabilité. Mais je trouve aussi que le diamant de synthèse a sa place, certainement, que ce soit les millennials ou les gens plus âgés. Je n'ai aucun souci aucun doute qu'il y a des gens qui sont très fort attirés par l'histoire du diamant de synthèse. Moi, j'ai juste une question. en point de vue la valeur d'un diamant de synthèse, vu que c'est quelque chose qui est fabriqué dans un laboratoire. Et alors on se pose la question jusqu'à où on peut aller et jusqu'à quel prix on peut dépenser pour quelque chose que finalement aujourd'hui le coût est peut-être élevé et que peut-être dans 2-3 ans il sera à moitié prix. Donc si aujourd'hui le diamant de synthèse est à 30 ou 40% moins cher, peut-être demain il sera à de moitié prix du diamant et peut-être l'année d'après encore 10% moins cher. Donc je comprends bien qu'il y a des jeunes qui vont dire c'est beau, ça a l'air la même chose, et si j'ai un petit budget de 200-300 euros, je veux bien mettre un diamant de synthèse parce que si j'achète ça ou une belle veste, c'est plus ou moins la même chose. Mais si on veut mettre quelques milliers d'euros comme investissement, mais aussi comme bijou, comme quelque chose d'un placement sûr, moi-même, je doute si quelqu'un voudra mettre un tel montant juste pour avoir quelque chose qui est encore en fabrication et où le prix coûtant n'est toujours pas défini à l'avance.
Mais vous avez l'expérience des grands marchés mondiaux. Donc les États-Unis, je crois, restent le premier marché du diamant naturel. Est-ce que sur ce marché-là, précisément, vous voyez jusqu'à quel point le diamant de synthèse commence à prendre des parts de marché?
Oui, tout à fait. Nous voyons, disons, la marque Signet, qui est quand même une très très grande marque aux États-Unis, qui a décidé de passer au diamant de synthèse. C'est une décision qu'ils ont dit avoir, j'imagine, des grands débats, parce que c'est quand même changé toute l'histoire de la marque qui a vendu pendant des années et des années du diamant naturel. S'ils passent au diamant de synthèse, c'est qu'ils sont sûrs qu'il y a un marché spécifique qui veut acheter ça. Maintenant, c'est une décision qui a été prise il y a 1 ou 2 mois. J'imagine que ça va être dans les magasins et ça va commencer à voir, et on saura peut-être dans quelques mois ou dans 1 ou 2 ans voir est-ce qu'ils ont fait la bonne chose ou est-ce que peut-être ils vont réaliser non, pour eux ce n'est pas le modèle qui marche et qui doit retourner au diamant naturel, ou bien pour eux c'est un modèle qui marche et qui resteront au diamant de synthèse. C'est quelque chose que nous, malheureusement, pour l'instant ne pourrons pas dire.
Et le marché chinois, qui a été pendant des années un marché en très forte expansion, est-ce que c'est toujours le cas malgré les mesures anti-corruption sévères imposées par le régime?
Alors quand ils sont sortis avec les mesures anti-corruption, nous avons vu vraiment une baisse pendant un petit moment pour l'export vers la Chine. Mais c'est arrêté, ça a recommencé, la croissance a recommencé. Si eux, ils vont accepter le diamant de synthèse, je ne crois pas que je suis la personne qualifiée à répondre, parce que je n'ai pas vraiment une vue sur ce qui se passe en ce moment en Chine avec le diamant de synthèse.
Dernière question, Monsieur Gottlieb. On sait que dans l'histoire, le diamant naturel, disons, a toujours été non seulement un symbole d'émotion, mais aussi un placement. Et en plus, quelque chose qui était très facile à transporter en période de troubles au fil de l'histoire. Mais c'est aussi le cas du diamant de synthèse qui, encore une fois, pour l'œil non averti, a exactement la même apparence. Est-ce que, à terme, il y aura véritablement deux marchés en fonction des moyens financiers et jusqu'à un certain point de l'investissement émotionnel que l'on met dans une pierre?
Oui, je crois tout à fait qu'il y aura, à long terme, il y aura deux marchés qui vont se faire et qui vont se créer, parce que d'après aussi les possibilités des gens, c'est vrai que le diamant naturel a été pendant des années, je fais aussi certainement référence au temps de guerre où les gens prenaient ça comme paiement et ils ont réussi à s'enfuir de certains grâce au fait qu'ils avaient des diamants qui étaient faciles à transporter et facilement, et les gens le reconnaissaient comme méthode de paiement à la place de payer en espèces ou qui étaient rares alors ou qui n'y avait pas. Est-ce qu'aujourd'hui le diamant de synthèse va pouvoir prendre une position pareille? Je ne sais pas. Le temps nous le dira. Je sais qu'aujourd'hui le diamant naturel a un grand marché de deuxième main, ça veut dire le marché du revend, que ce soit après un décès ou après un divorce. Il y a toujours l'une des premières choses qu'on va vendre, c'est sa bague ou des bijoux qu'on a si on a des difficultés. Je ne sais pas quel sera le cas quand on a un diamant de synthèse. Ça, c'est quelque chose que le temps nous dira.
Alors précisément, Madame Gickel, votre réponse ou votre argument, est-ce qu'il peut y avoir un deuxième marché pour un diamant de synthèse?
Alors aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a une difficulté pour se fournir en diamant de laboratoire, donc en diamant synthétique, eh bien, toute pierre qui est revendue aujourd'hui trouve acquéreur tout de suite. parce qu'il y a vraiment aujourd'hui une difficulté à se procurer ces diamants-là. Alors sur les méthodes, je ne sais pas si vous connaissez très bien les méthodes de production des diamants synthétiques, mais en fait, par exemple, pour les techniques que j'utilise, la physique limite complètement le développement, le scale-up de ces réacteurs-là. Donc,
Donc, je voulais juste vous dire que la production est forcément en quantité limitée.
Elle sera en quantité limitée, et puis on ne pourra pas baisser le prix de revient. Ce sera pas du tout possible. Un peu, oui, bien sûr, je pense, évidemment, parce qu'on va gagner des choses, mais pas beaucoup. C'est vraiment la physique qui définit une longueur d'onde. On peut pas faire mieux, quoi.
Oui, mais le marché aussi. C'est-à-dire que si vous avez de plus en plus
de concurrents. Ah, on peut en avoir plusieurs, oui.
Ce moment-là, la concurrence joue à la baisse.
Oui, je suis d'accord, mais la barrière à l'entrée est énorme, quand même. La barrière à l'entrée pour faire de la haute qualité.
Thierry Vircoulon, les Soviétiques à l'époque et les Américains, Madame Jiquel nous le rappelait, donc au milieu du siècle dernier, avaient mis au point certaines techniques pour fabriquer des diamants de synthèse. Et il semble que lorsque les archives soviétiques ont été ouvertes, on a découvert quelques entourloupes.
Oui, tout à fait. Les scientifiques américains et soviétiques ont découvert à peu près au même moment, dans les années 50, la façon de faire des diamants de synthèse. Et c'est aussi l'époque où on a découvert les premiers gisements de diamants en Sibérie. Et par conséquent, il y a eu la De Beers, qui était en situation de monopole à cette époque, a approché le gouvernement soviétique pour éviter aussi, on revient à ces questions de concurrence dont on parle maintenant, pour éviter que les Russes inondent le marché avec leur nouvelle production de diamants, et donc acheter la production de diamants russes.
Là, on parle de diamants naturels.
De diamants de mine, oui, tout à fait, de diamants bruts. Ça a été révélé quand les archives de l'Union soviétique ont été ouvertes dans les années 90. Et on suspecte que pendant un certain temps, les autorités soviétiques ont peut-être aussi mis des diamants de synthèse dans les cargaisons qu'ils vendaient à la De Beers à cette époque, qui, j'imagine, a dû s'en rendre compte assez rapidement. Mais c'est une histoire, en effet, qui était gardée secrète quand l'Union soviétique existait et qui a été révélée dans les années 90 avec la libéralisation.
Mais quand on suit, comme vous, et particulièrement en Afrique, la manière dont les circuits de matières premières se développent, on a compris tout au long de cette émission que s'agissant du diamant, qui est encore une fois la pierre la plus légendaire de l'histoire, une histoire qui a accompagné les religions et pas seulement les collections privées. Jusqu'à quel point est-ce que la fragmentation, la mondialisation affecte désormais toutes ces filières?
Elle a un impact très fort, comme je le disais. Ça a déjà été le démantèlement du monopole de la De Beers, avec l'apparition d'autres zones de production, d'autres acteurs. Et en fait, on voit que des filières se sont installées en Afrique en profitant des désordres et des conflits qui ont eu lieu, et que ces filières sont très difficiles à éradiquer. Par exemple, personnellement, j'ai été à Bujimai, qui au mois de juin, qui était une des grandes villes de production du diamant au Congo, qui est là où historiquement on a découvert les premiers gisements de diamants au Congo au début du XXe siècle, et où maintenant il n'y a plus de production parce que la société nationale est en ruine complètement. Et en fait, c'est une société chinoise, la seule production dans cette zone, et le fait d'une société chinoise qui a signé une concession avec le gouvernement et exporte très discrètement, creuse et exporte très discrètement du diamant. Et donc on on voit comment un nouvel acteur comme la Chine rentre sur le marché, et donc c'est symbole de cette mondialisation, et va prendre des concessions dans des lieux très très éloignés dans la brousse, et le fait en toute discrétion. Donc on voit une mondialisation très brutale. Par exemple, je connais aussi une autre ville de diamants au Congo qui s'appelle Chikapa, qui pendant très longtemps a été dominée par des commerçants indiens et libanais du diamant, qui faisaient l'économie dans cette zone. Donc c'est en effet une histoire de mondialisation. Le secteur du diamant, ça a d'abord été très lié à l'histoire coloniale, avec la découverte des mines au Brésil et puis après en Afrique australe. Et on voit maintenant que c'est vraiment une affaire de mondialisation, avec des acteurs étrangers qui peuvent aller sur les sites de production eux-mêmes, soit pour creuser, soit pour acheter la production artisanale. Et donc c'est vraiment un très bon exemple de cette mondialisation qui, en Afrique, est très très brutale.
Et une mondialisation qui s'accompagne aussi donc de l'apparition et du développement d'un nouveau, comment dire, d'une nouvelle génération de diamants, les diamants de laboratoire. Merci à tous de nous avoir ainsi éclairés sur cette question. Merci à vous, Thierry Vircoulon, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et centrale à l'Institut français des relations internationales. Alix Jiquel, vous êtes la présidente de Diam Concept, et donc nous allons montrer sur notre site à nos auditeurs les très jolis diamants que vous produisez. Je remercie très vivement David Gottlieb, vice-président de la Bourse du Diamant d'Anvers, de nous avoir fourni toutes ces explications. Merci aussi à vous, Sandrine Poupon. Vous dirigez l'école internationale de marketing de luxe à Paris. À la réalisation ce matin, comme tout au long de cette année, Luc-Jean Reynaud, à la technique Maïwenn Lejean, à la préparation Hugo Boursier, toute notre équipe d'Affaires étrangères se joint à nous, ainsi que Hamdam Mostafavi de Courrier International, pour vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année. Avec tous nos vœux les plus chaleureux, merci pour votre fidélité, et nous vous retrouverons avec joie le 4 janvier 2020. Merci, très bonne fête.